curieuses et curieux d'Ardèche et du monde d'après, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Nous sommes mardi 11 avril, il est midi pile, ou peut-être 17h si vous écoutez la rediff, et vous êtes bien sur fréquence 7. Aujourd'hui, dans l'onde curieuse, nous allons faire l'expérience de l'Ardèche secrète. Alors, c'est pas le dernier Dan Brown, c'est tout un programme d'ateliers, de rencontres, de découvertes, qui ont une promesse, sortir des circuits touristiques habituels. Et on va se laisser guider par notre invité Bertrand Royer de la communauté de communes du bassin d'Aubenas. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Mais ça, c'est après. Après quoi ? Après les infos. Les Actus Midi commencent par un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé ce week-end à Saint-Pierre-de-Colombier. 500 opposants se sont réunis contre le projet de complexe religieux après que le permis de construire a bien été confirmé par le tribunal administratif. Alors l'objectif de cette manif, c'est de faire appel, enfin de tous les opposants, c'est de faire appel de cette décision. C'est de ne pas lâcher, car même si le combat est long, il est légitime. Alors 500 personnes à peu près, ça veut dire quoi ? Déjà que 500 ? Ça veut dire aussi une ambiance bon enfant, 11 partis politiques de gauche et des associations qui prennent la parole sur la place du village avec la cantine populaire qui régale de son mafé végétarien avec une déambulation dans les rues. 500 personnes, ça veut dire aussi une pluralité de voix au sein du cortège avec des slogans plus drôles ou plus radicaux comme « laisse béton, Dieu est mort » ou « moins d'inceste, plus d'insectes » qui ne sont pas du goût de tout le monde. Et c'est ça, la démocratie existe aussi au sein de la contestation. Mais toutes les voix doivent pouvoir s'exprimer. Ça pose la question des stratégies de lutte. Que faire pour que ça bouge ? C'est une question qui nous habite, qui nous agite, notamment depuis janvier, concernant le projet de réforme des retraites en France. Eh bien, dans l'attente de la position du Conseil constitutionnel concernant donc ce projet de retraite qui doit être rendu public le 14 avril, le combat continue avec notamment l'intersyndicale du bassin albenacien, mais ce dans toutes les villes d'Ardèche. Donc je vous annonce le programme pour ne pas lâcher. C'est jeudi 13 à 14h. La grève et manifestation à Aubenas-Ponson, suivie à l'USAS à 19h30 d'une projection du film « Plogoff, des pierres contre des fusils » de Nicole Le Garec. Alors c'est un film de 1980 qui a été restauré récemment, en 2019, et qui a même été sélectionné en 2019 à Cannes. C'est un film sur un autre combat, un film documentaire sur le soulèvement de Plogoff dans le Finistère contre l'implantation d'une centrale nucléaire à l'époque, en 1980. Et si j'en parle notamment, c'est pour parler des actions de solidarité qui ne cessent d'avoir lieu. On parle souvent des violences de la foule, il est intéressant tout de même de parler de toutes ces actions, de toutes ces initiatives qui ont lieu depuis début janvier pour abonder les caisses de grève. On peut parler notamment des actions de solidarité de vendredi dernier qui ont lieu au collège de Lérieux à Saint-Sauveur de Montagu, où des paysans, des artisans, des magasins de producteurs, une épicerie, des associations ont amené des denrées alimentaires au personnel, enseignants et non-enseignants, du collège, fortement mobilisé depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Alors on peut parler de toutes ces initiatives pour soutenir le mouvement, donc des projections de films, des événements, des cantines improvisées, drôles, bonnes et conviviales. Bref, tout ça pour dire que la démocratie ne consiste pas à mettre un bulletin de vote une fois tous les 5 ans dans une urne. Elle s'actualise tout le temps, chaque jour. La démocratie, c'est poser la question, se poser la question chaque jour, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble et qu'est-ce qu'on fait individuellement et collectivement pour y parvenir. On résiste, on imagine, on choisit de vivre autre chose ensemble et on se donne rendez-vous jeudi à 14h à Aubenas, mais comme je le disais, aussi à Privas et dans toutes les autres villes qui organisent les manifestations. Et vendredi, 14 à 18h, il y aura un rassemblement place du Château à Aubenas. Quentin n'est pas là, c'est lui habituellement qui fait son coup de gueule, mais c'est vrai que On a envie que les choses bougent et il faut se bouger pour ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même aller cotiser pour nos retraites, ou donner du sens à nos vies, ou trouver un peu d'argent pour manger des coquillettes bio. Ben, ça tombe bien puisque la piscine La Perle d'Eau à La Blacheur recrute un sauveteur-sauveteuse aquatique pour la saison estivale 2023. Alors, ce sera quelques coquillettes bio puisque c'est 2 mois hein, la saison estivale, mais enfin bon, ce sera toujours ça de prix. Si ça vous intéresse, rapprochez-vous de Pôle emploi donc, pour avoir plus d'informations. On peut aussi se faire du bien par la musique, les rencontres et le spectacle. Alors, l'onde curieuse de jeudi devait parler du festival Cadence Coiron qui aura lieu ce vendredi et ce samedi à Lussas, et du festival de théâtre en cours ce week-end aussi à Hayon. Et puis, eh bien, on sera en grève. Donc, je vous en dis un mot maintenant et on en reparlera un peu aussi vendredi. Cadence Bal les 14 et 15 avril. Alors si vous avez envie de virevolter, danser, guincher, chalouper, ça tombe bien. Il y a 2 soirs de bal avec 7 groupes. Le vendredi, c'est Chloé Solo, pardon, Unclogged, Folk You. Il faut faire quelques entraînements avant de dire ces noms de groupe. Donc vendredi, Chloé Solo, Unclogged, Folk You. Le samedi, Jérémy Congrega, Bal au Gajo et Labo Bicouze. Et puis vous avez aussi des ateliers à prix libre et conscient du samedi de la journée où vous pouvez travailler vos meilleurs pas de danse grâce à Elodie Saubin ou encore les plus belles vibrations de votre voix pour l'atelier chant à danser avec Lucille Tondeux et Virgilia Gacoin. Et le samedi à 17h sur la place du village, il y a aussi un bal à la voix en accès libre pour se mettre dans l'ambiance. Buvette, resto, ration, camping et douche à disposition. Je précise aussi que les papilles seront elles aussi bien chouchoutées puisqu'il y a Bastard's Kitchen qui est maintenant habitué à nourrir les estomacs des folkeurs et des folkeuses qui seront également sur place tous les soirs. Les réservations sont fortement conseillées pour aider à l'organisation, soit par mail à cadence au pluriel cadencecoiron@gmail.com ou au 06 07 32 44 70. Je vous parlais du deuxième événement dont on devait parler dans l'onde curieuse, c'est le théâtre en cours qui fait son festival comme chaque année. Et cette année, ça aura lieu à Hayon, avec plein de spectacles, pardon, plein de spectacles, de musique. Vous avez de la poésie incitative. Alors, je dis juste quelques mots pour vous donner envie, comme ça m'a donné envie. Poésie incitative, il y a L'art osé de Gloria, un petit spectacle. Il y a des conférences de poche. Il y a de la musique, il y a du cosmique électropunk, il y a Mathilde Payette, il y a le dénouement qu'on voudrait, il y a conjonction de coordination. Vous ne comprenez pas tout, mais ce n'est pas grave. Allez à Hayon à partir de vendredi soir jusqu'au 15, ou alors vous dansez à Lussas, à Quaron, mais enfin faites quelque chose, mais il y a matière ce week-end. On en reparle, c'est promis, vendredi. Ben on continue en musique, non? Ghost Woman, The End of a Gun. C'est une nouveauté fréquence 7 concoctée et choisie par Sylvain. Merci Sylvain.
Mais de rien.
Sylvain, on ne s'est pas dit bonjour aujourd'hui.
Bien le bonjour.
Oui, bonjour Sylvain. Donc Sylvain, tu es là, Quentin n'est pas là. Mais heureusement, Bertrand Royer de la communauté de communes Bassin d'Aubenas est présent avec nous. Donc rebonjour Bertrand, nous allons parler ensemble de tourisme, un tourisme qui expérimente d'autres manières plus durables pour se maintenir en vie en tant qu'activité, mais aussi et surtout pour essayer de trouver un équilibre entre les usagers, les acteurs locaux, les animaux, l'eau, les plantes et les touristes. Alors on a déjà parlé de cette thématique ici à l'onde curieuse, mais là, on va parler de ce que j'ai entre les mains. Alors, j'ai entre les mains des flyers Ardèche secrète. Qu'est-ce que c'est ?
Ben, merci de me donner la parole. Bonjour à tous. L'Ardèche secrète, c'est d'abord une marque de territoire hein, qui va essayer de mettre en valeur le territoire sur cet aspect d'une Ardèche secrète encore à découvrir autour de notions comme l'authenticité, l'aspect sauvage aussi naturel. Donc c'est la marque des 28 communes qui composent le bassin d'Aubenas. On se retrouve tous derrière cette idée d'une Ardèche secrète à faire découvrir donc, aux visiteurs.
À faire découvrir. Mais derrière ça, il y a tout un dispositif, tout un projet d'envergure qui essaie de modifier un petit peu les propositions touristiques sur le territoire. C'est bien ça, parce que le tourisme à la ferme, on connaît, et même, je veux dire, sans se cantonner à au tourisme à la ferme, il y a des tourisme un petit peu différent qui pointe leur nez depuis quelques temps. On parle de no-tourisme, de cyclotourisme, de tourisme plus respectueux. Quelle est l'originalité de ce que vous proposez sur les territoires du bassin d'Aubenas ?
Mais écoutez, oui, effectivement, ce projet-là qui est piloté par la communauté de communes du bassin d'Aubenas et qui est mis en œuvre par l'Office du tourisme, effectivement, derrière cette idée d'une Ardèche secrète, donc une marque qu'on va faire rayonner, qu'on va essayer de rendre visible au-delà des frontières du territoire, hein, régional, national, international aussi, hein, parce que l'Ardèche, c'est aussi une destination internationale. Donc on a cette idée d'une Ardèche secrète, mais concrètement, mon travail... Il s'agit de mettre en place des visites d'un genre nouveau pour le territoire, des visites qui vont être axées sur la rencontre avec des acteurs du territoire, des personnes qui ne sont pas des professionnels du tourisme stricto sensus, qui sont des artisans, des paysans, des guides ou des personnes qui ont des métiers passion, bien souvent, qui veulent les faire découvrir. Et l'idée, c'était de mettre à leur disposition en fait un dispositif qui a été testé, expérimenté pendant toute une phase de test.
Très nouvelle, hein. Il faut dire aussi, c'est un projet qui est né en 2019, vous l'avez testé toute l'année dernière, et là, ça y est, cette année, enfin, c'est la deuxième année opérationnelle que vous avez affinée en fonction des retours. Donc c'est vraiment... C'est quelque chose effectivement d'envergure, de plus global, hein, et qui est assez récent à cette échelle.
Oui, tout à fait. C'est vrai que là, le bassin d'Aubenas est d'une certaine manière un peu précurseur. En tout cas, il y a eu toute une sorte de laboratoire territorial autour de cette notion que nous, on appelle dans notre jargon le tourisme expérientiel. Mais c'est justement l'idée d'avoir des visites à forte plus-value, hein, à la fois pour les visiteurs, mais aussi pour les prestataires. Donc cette idée d'aller dans des visites immersives. C'est-à-dire que les gens sont acteurs de leur visite, ils participent à quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des savoir-faire, mais on n'est pas dans une relation didactique où le sachant explique un visiteur passif. Non, on est là dans l'échange, dans le partage. Donc à chaque fois, ces visites, elles ont une dimension participative. C'est-à-dire que les gens, bah, ils vont visiter un atelier d'artisan, mais ils vont aussi mettre la main à la pâte pour être confrontés à la matière, apprendre à utiliser un outil. Et souvent, c'est des savoir-faire qui sont un vrai patrimoine immatériel pour le territoire du bassin d'Aubenas. Au-delà, évidemment, mais sur le bassin, on a la chance d'avoir un territoire très diversifié, avec effectivement des personnes qui deviennent un peu après des personnages, parce que nous, on insiste beaucoup sur les histoires de vie aussi de ces gens qui attisent la curiosité, clairement. Hein. On connaît la châtaigne, mais les secrets de la fabrication de la crème, comment on ramasse, etc. Ben, les gens ont la possibilité, avec ces visites, d'aller s'immerger dans un univers professionnel, singulier, et ils découvrent les coulisses, en fait, de ce qui fait les choses emblématiques du territoire. Quoi.
Oui. Vous parliez de personnages et c'est vraiment ça, c'est une relation qui se fait même avec la personne qui accueille, hein, puisque pour que les auditeurs se représentent bien, on peut avoir par exemple un atelier, une initiation à l'apiculture, on peut avoir un atelier de création en osier. On peut avoir un atelier pour comprendre et faire aussi un petit peu soi-même, hein, c'est l'objectif, c'est ce que vous avez dit, se servir d'un alambic ici. Vous pouvez...
C'est tout à fait ça, alors je pourrais détailler comme ça chaque expérience, c'est vraiment un cas particulier, assez unique, et on est celle qui est vraiment une dimension très très qualitative dans ces visites-là, alors, souvent qui se passe en petits groupes, alors c'est très intimiste, très convivial, et vous avez prononcé le terme, c'est-à-dire c'est un tourisme de rencontre. La relation visiteur-visité, elle est primordiale. Et tout ça se passe effectivement alors, dans des univers, à des saisons bien particulières, parce que c'est un tourisme qui évidemment n'est pas concentré sur juillet-août, c'est ce qui fait un peu sa plus-value, sa particularité, c'est que c'est vraiment un tourisme quatre saisons. Donc l'hiver, on a eu des choses autour de la truffe, autour du vin, on a des sorties avec des transhumances de chevaux. Enfin, le printemps arrive, donc il y a le baptême d'apiculture, des sorties autour des plantes comestibles. On va pouvoir participer à des ateliers création en osier. Cet hiver, l'osier, par exemple, les gens pouvaient aller récolter l'osier, puis ensuite participer à l'atelier. Donc on essaye toujours d'aller de plus en plus loin, en fait, pour que les gens puissent ressentir, en fait. On est vraiment sur un tourisme, des activités très, très sensorielles. Il y a le goût, le toucher, en fait, tous les sens sont mis en éveil. Et par exemple, on a une sortie nocturne, tous les soirs de pleine lune, un guide qui va accompagner des visiteurs par petits groupes la nuit. Et là, évidemment, tout ce qui est l'observation avec ses oreilles va se développer. Donc il y a quand même cette notion d'une forme d'apprentissage aussi chez les visiteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les visiteurs sont très hétérogènes. On a des touristes, lambda, j'ai envie de dire. Et puis on a des habitants aussi, beaucoup d'habitants qui sont de plus en plus adeptes de ces loisirs de proximité. Parce que c'est de proximité, mais des fois, c'est un monde quand même qui nous est inconnu. Donc, on va, nous, essayer, quand je dis nous, c'est l'équipe de l'Office du Tourisme, de la communauté de communes, de créer les conditions pour que la rencontre ait lieu. Alors, il y a un côté un peu visite touristique assez standardisé, parce que ces visites sont réservables en ligne, dans les bureaux de l'Office du Tourisme, il y a des tarifs, des lieux pour se garer, enfin, tout est assez normé de ce niveau-là. Mais après, une fois que c'est lancé, là, il y a quelque chose qui se passe véritablement au niveau de la rencontre. Et on a des retours, effectivement, très, très positifs, ce qui nous rassure sur le fait de continuer aussi d'ancrer ça dans un tourisme durable qui effectivement, s'inscrit dans le temps aussi. Hein. Et on voit qu'il y a une autre forme de reconnaissance, hein, parce qu'on n'en a pas parlé hors antenne, mais par exemple, on a remporté là, tout récemment un concours national sur un challenge territoire insoupçonné, des séjours qui se veulent éco-responsables. Donc là, on a été distingué au niveau national par le premier prix. Parce que c'est des choses qui font sens au-delà du territoire Sud-Ardèche, hein, c'est dans l'air du temps aussi.
Bien sûr.
Mais on y répond avec nos ressources de territoire.
Et encore faut-il, et c'est je pense toute la magie, là, je vous entends, les auditeurs peuvent vous entendre, vous êtes assez passionnés par le sujet, et l'authenticité est quelque chose qui résonne particulièrement pour vous, puisque vous êtes vous-même ethnologue, et votre sujet d'étude... c'est ça, c'est l'authenticité. Et du coup, comment transformer ce qui pourrait être une simple étiquette marketing, un simple emballage, en une vraie... Enfin, le fait même de dire vrai, c'est souvent ce qui n'est pas vrai est dit vrai. Enfin, en une expérience, en un moment partagé. Et ça, c'est toute la force.
Oui, bah, effectivement, voilà, moi, effectivement, c'est un sujet qui me passionne, me préoccupe et m'occupe depuis de nombreuses années. J'ai effectivement soutenu une thèse sur l'idée de mise en scène de l'authenticité, mais alors, dans d'autres univers culturels. Mais les attentes sont un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'on... On n'est pas sur... Alors, l'authenticité, évidemment, bon, un peu galvaudé, un peu valise. Nous, on va communiquer hein, dessus, hein, le territoire authentique. Il y a une forme de marketing, de communication autour de ces notions-là. Mais avec ces visites-là, on va toucher du concret. C'est-à-dire que l'authenticité, là, elle va, c'est une authenticité chaude, d'une certaine manière, qui se joue dans la relation. Donc, les personnes qui accueillent là, les visiteurs... ils sont authentiques. Ils ne sont pas dans un rôle, on n'est pas dans du folklore, quoi. Eux, c'est leur métier, c'est leur quotidien. Hein, et ils vont faire découvrir un métier qui est dans l'air du temps. Donc, on touche un peu à ces notions de patrimoine immatériel ou de patrimoine vivant, où on a évidemment, nous, la chance, hein, c'est une vraie plus-value sur le territoire, d'avoir des personnes qui manipulent des ressources, qui ont des savoir-faire, qui s'inscrivent effectivement dans une notion patrimoniale, parce qu'il y a de l'intergénérationnel, il y a de la transmission. Et l'authenticité, elle se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire l'authenticité d'une rencontre qui n'est pas galvaudée ou qui n'est pas folklorique, mais qui est réelle. Donc là, on la châtaigne, par exemple, c'est un emblème du territoire. Il y a un côté authentique, hein, l'arbre à pain, enfin, tout ce qu'on connaît de la culture autour de ça. Mais aujourd'hui, avec ces visites-là, les personnes ont la possibilité d'aller dans les champs, dans le verger, de comprendre ce métier, de ramasser eux-mêmes des châtaignes, d'apprendre à faire leur confiture, etc. Donc l'authenticité, elle se situe à ce niveau-là. On n'est pas dans l'authenticité... Je prendrai peut-être un exemple pour illustrer ça. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, l'Office du tourisme à Valls, peut-être vous connaissez le musée des savoir-faire paysans, hein, donc avec des objets qui sont authentiques, hein, une table, mais sur laquelle on ne mange pas, ou des outils hein, qui montrent notre histoire, notre lien à la terre, etc., mais qui ne sont pas utilisés. Il y a un côté un peu froid, hein, une authenticité froide, didactique ou scientifique, mais qui manque un peu de peps pour des visites. Et là, nous, on va proposer à des gens d'aller sur le terrain, quoi, réellement se confronter à des choses, des savoir-faire, dans des lieux aussi, parce que je parle beaucoup de la rencontre, mais pour que la rencontre se passe, il faut qu'elle ait lieu, et le lieu, en fait, hein, y a cette idée aussi de hors-saison, on en a parlé, un tourisme de 4 saisons, mais aussi un tourisme en dehors des sentiers battus, au sens stricto du terme, c'est-à-dire qu'on va aller dans des hameaux, dans des lieux, dans des villages, dans des fermes qui ne sont pas des lieux touristiques.
Donc ça redistribue un petit peu le tourisme sur le territoire, à la fois dans le temps, vous l'avez dit, 4 saisons et pas uniquement les 2 mois d'été, mais aussi dans des zones qui ne sont habituellement pas fréquentées
par le tourisme. Tout à fait. Et on n'est pas sur des flux touristiques qui vont se déverser dans des zones qui ne seraient pas préparées à recevoir des touristes, parce qu'on est sur des visites c'est des petites jauges, des petits groupes, des personnes qui se fondent en fait avec les habitants. D'ailleurs, les habitants participent à ces visites. Donc là, on est dans un tourisme vertueux à plusieurs niveaux, parce que les effets... Alors, on étudie le tourisme, on parle des externalités, hein, les effets positifs, parfois négatifs, de l'impact du tourisme. Et là, on engendre un cercle vertueux dans le sens où les personnes qui viennent en visite vont faire une rencontre, rencontrer des produits aussi, hein, des produits locaux. Bien souvent, on a des visites à la ferme, notamment. Là, par exemple, aujourd'hui, des gens sont en train de participer à une visite fromage de chèvre à Mézillac, là-haut, sur les hauteurs du bassin d'Aubenas. Et c'est des personnes qui vont, au-delà du goût du fromage, apprendre, comprendre à le faire. Et après, évidemment... Ça devient plus des... Ils vont aller plus facilement vers l'achat après de ces produits-là, quoi.
Donc il y a cette idée... qui se noue avec...
De circuit court, de plan alimentaire territorial aussi, tout ça est en connivence, quoi, vraiment. Et l'idée, c'est bien que toutes ces visites, alors il faudrait peut-être donner un peu les détails, mais elles se répondent les unes aux autres, quoi. Il y a une forme il y a un fil d'Ariane, un fil conducteur entre toutes ces visites-là, autour de cette notion d'authenticité. mais aussi de donner du sens en fait à la visite, quoi. Les gens sont en quête de sens quand même.
Alors allez-y, vous disiez, il faudrait peut-être donner les détails. Allez-y, donnez ce que vous... Voilà.
Voilà, je pourrais détailler parce que, alors moi, c'est évidemment, je les ai toutes vécues, ces expériences-là, donc à chaque fois, elles sont vraiment immersives, inédites, et à chaque fois, super, super. Là, en ce moment, vous pouvez, par exemple, participer à un atelier moutarde à Aizac, à la vinaigrerie d'Aizac avec Sylvain. Donc là, on va apprendre à faire sa moutarde, on repart avec un super pot de moutarde, les gens souvent repartent avec quelque chose. Vous pouvez participer alors tous les mois, ça c'est tous les mois, toute l'année.
Donc c'est tous les mois. Ouais. Non, le rendez-vous moutarde, rendez-vous hebdomadaire.
Rendez-vous hebdomadaire du vendredi à 14h.
À 14h, et c'est 15€ par personne.
Voilà, c'est ça.
Réservation obligatoire. On réserve où?
Alors, les réservations, c'est tout le temps sous réservation. On peut réserver en ligne, sur le site de l'Office du tourisme, ou se rendre dans l'un des trois bureaux d'accueil de l'office à Aubenas, à Vals ou à Entraigue. Donc et mes collègues qui sont conseillers séjour, qui auront aussi vécu ces expériences, qui peuvent en parler, qui peuvent en parler. On peut acheter ça, de manière très facile en fait. On a mis effectivement à disposition des prestataires un dispositif qui a fait ses preuves, quoi. Hein. Après, on peut participer donc à cet atelier moutarde. Là, on peut participer à une sortie qui est magique. C'est de transhumer les chevaux de Jérémia qui est basé à Saint-Étienne-de-Fontbellon et qui transhume ses chevaux à chaque vacances. Donc le premier samedi des vacances, c'est le dernier samedi. On va suivre le troupeau pour changer de pré. C'est vraiment une expérience.
Ça, c'est génial. Ouais.
On peut participer à un atelier vannerie pour apprendre à faire la vannerie aléatoire avec Marilyn qui est à Saint-Privat. Ça aussi, c'est vraiment pour les gens qui sont attirés par la matière brute et qui veulent la transformer. Enfin, c'est vraiment des ateliers créatifs, artistiques, hyper, 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 hyper sympas et très, très. Chaque fois, c'est des retours très positifs. Je continue sur les visites.
J'allais rebondir parce que c'est vrai que le propre de ces visites, c'est justement d'offrir un cadre où on est peu nombreux, un cadre privilégié. Donc, automatiquement, ça veut dire peu de monde. Donc, économiquement, comment c'est viable? Ça ne peut être qu'une partie du tourisme sur le territoire.
Ah oui, tout à fait. Ce tourisme-là n'a pas vocation à remplacer d'autres formes de tourisme, tourisme sportif ou tourisme d'eau vive, tout ça. Non, ça s'inscrit dans la complémentarité, véritablement, de montrer que le territoire a des ressources, a du potentiel insoupçonné, en fait. Hein, parce que clairement, là, moi, je suis toujours étonné de la richesse, en fait, des rencontres sur le territoire. Là, je viens, par exemple, on vient de créer un nouvel atelier, la nouveauté 2023, avec Aurélie qui est à Saint-André-de-Vals et qui va proposer, donc qui cultive son lin, un lin textile, et qui propose du coup d'apprendre à faire du cordage avec le lin, à faire un petit bracelet en lin. Donc c'est tout un, comme ça, il y a un renouvellement en fait. On a la chance d'avoir un territoire vraiment où on a des personnes qui font des choses originales. Et nous, on s'appuie là-dessus, en fait. Hein. On s'appuie là-dessus. Et que ce soit les visites à la ferme, parce qu'on a des visites qui ont un grand succès autour des animaux, les chèvres, par exemple, l'atelier fromage de chèvre, là, ce matin, les gens qui sont à Médiac, c'est une visite qui a du succès, parce que c'est véritablement une grande découverte d'apprendre à faire du fromage, traire les chèvres, etc. Ça plaît beaucoup. Après les plantes comestibles aussi, c'est une sortie qui plaît beaucoup en ce moment. Là, ben, le printemps est là. Oui, Bernadette, donc, qui est sur le hameau de Longe-Serre à Vals, pareil, des hameaux qui ne sont pas touristiques, hein, c'est pas des lieux touristiques. Mais là, on va aller dans son jardin, on va aller dans la forêt, dans les prairies, découvrir les plantes, etc. Et y a une vraie connaissance après aussi. Les gens repartent avec des connaissances, une envie d'aller plus loin, donc c'est des belles visites, quoi.
Ça donne très 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 envie, et d'autant que on entend, hein, c'est un travail quotidien, enfin c'est certain travail quotidien, mais pour continuer d'écouter le pouls de ce qui se fait en Ardèche et de proposer à des personnes de faire partie justement de ces expériences là et de proposer.
Tout à fait. L'idée, c'est quand même d'avoir un réseau local de partenaires. Donc c'est des personnes qui, je disais tout à l'heure, qui sont situé en dehors du champ touristique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, d'un point de vue économique, leur cœur de métier, ce n'est pas d'accueillir du monde toute l'année. Donc ça fait un revenu complémentaire, en fait. C'est d'avoir des activités complémentaires. Il y a beaucoup de plus réactifs aussi dans nos prestataires, hein, qui des fois font plusieurs métiers. Et là, ça apporte un revenu complémentaire. Et ça permet de faire la communication aussi sur ce qu'on produit. Mais l'idée, c'est bien d'avoir un réseau comme ça, interprofessionnel, interfilière aussi, parce que je parlais d'art et d'artisanat, métier d'art, il y a tout un volet, il y a l'agriculture, il y a la nature, hein, il y a la gastronomie, le terroir, vous avez parlé tout à l'heure de l'alambic, par exemple. On voit bien que les personnes partagent un certain nombre de valeurs. C'est des valeurs qui sont partagées à la fois par ce que j'appelle les prestataires ou les intervenants, mais aussi par les professionnels du tourisme, que ce soit des hébergeurs ou les conseillers séjour, il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles on se retrouve. Voilà, faire du tourisme 4 saisons, valoriser les filières locales, préserver les ressources. Donc c'est des valeurs fortes qui fédèrent d'une certaine manière, parce qu'un réseau interprofessionnel, ça se décrète pas. Hein. On est là dans un réseau par la preuve du concret, nous. Hein. C'est-à-dire que ces visites-là, on voit bien qu'elles font sens. Alors, il y a une charte graphique, mais au-delà de l'aspect graphique, il y a aussi un fil conducteur, quoi. Et c'est ça qui permet, en fait, de lancer un dynamisme. Donc, il y a eu toute une phase de diagnostic, d'expérimentation dans le cadre d'un projet qui était financé par les fonds européens. Puis là, aujourd'hui, il y a une consolidation, une envie d'aller plus loin et de pérenniser ce dispositif-là, quoi.
Les expériences de l'Ardèche secrète sur le bassin d'Aubenas, avec plein de propositions, 12 propositions j'ai compté là ce printemps, mais il y en a plus, puisque comme on l'a dit, ce n'est pas que l'été ni le printemps, c'est l'automne et c'est l'hiver aussi. Merci beaucoup Bertrand Royer d'avoir été notre invité ce midi, ça donne envie et ça réconcilie effectivement avec une certaine forme de tourisme. Merci beaucoup Bertrand Royer. Et merci Sylvain. On va dire ce qui se passe sur les ondes. Alors à 15h, c'est le Telex. Le Telex 04 75 93 30 25. C'est vous qui dites ce qui se passe dans vos assos, dans vos villages. Vous nous appelez, vous laissez votre annonce sur le Telex. Et ça passe tous les jours à 15h, à 17h.
Si à 9h avez... aussi.
Et à 9h. Oui, le Telex, c'est tous les jours à 9h et 15h.
C'est ça.
Et mais tu vois, merci Sylvain, tu es mon binôme aujourd'hui.
Ah yes.
À 17h, la rediff de L'Onde Curieuse. À 18h, c'est Polémix et la voix off. Est-ce que tu sais de quoi JB va parler ?
Ça risque de parler de grève, je pense. Hein.
Ah, c'est possible. Donc à 18h, à 20h... Salut à toi.
La Rediff.
Et à 21h, Metal Zone.
Un nouveau Metal Zone, oui. J'ai pas noté, mais je crois qu'il doit y avoir une interview de groupe.
Une interview de groupe, 21h. Et puis, ben, nous, on se retrouve, donc non pas jeudi, on se retrouve pour L'Onde Curieuse lundi. Et vendredi, si vous êtes fan de cinéma, pour le Cinémascope à 12h10. D'ici là, bonne manif.